Psychiatrie.
Psychanalyse.
Psychologie.
Psychopédagogie.
Psychose.
Psychasthénie.
Psychédélisme.
Psychochirurgie.
Psychosomatique.
Psychodrame.
Psychométrie.
Psychopharmacologie.
Psychothérapie.
Psychotechnique.
Psychopathologie.
Psychopathe.
Psychotrope.
Psychotique.
On nous ferait avaler n'importe quoi.
L'entonnoir, pour les allumés de la cafetière et pour les autres.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'est l'émission L'Entonnoir, comme tous les mercredis de 9h30 à 10h30. L'Entonnoir, émission de l'antipsychiatrie. Pour nous appeler pendant l'émission, c'est le 01 43 71 89 40 pour nous écrire émission L'Entonnoir, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous parlons essentiellement de l'entrée en vigueur de la réforme de l'hospitalisation sans consentement, la loi du 5 juillet 2011 sur l'internement en ambulatoire. Je lis un extrait du Monde du 2 août, daté du 2 août 2011. Un extrait qui annonce la mise en vigueur de cette nouvelle loi. Entrée en vigueur le 1er août, la réforme de l'hospitalisation sans consentement inquiète psychiatres et juristes. Je ne lirai pas tout l'article, mais seulement des extraits. Malgré les interrogations persistantes sur sa mise en œuvre, la réforme de la loi de 1990 sur l'internement psychiatrique sans consentement est bien entrée en vigueur lundi 1er août dans la plus grande précipitation. La loi a été promulguée le 5 juillet. Ses décrets publiés le 18 juillet. Elle instaure notamment un contrôle par un juge dans les 15 jours suivant l'internement d'un patient et la possibilité d'imposer des soins psychiatriques à un malade même hors de l'hôpital. Dans cette loi, deux évolutions majeures donc se télescopent et bouleversent l'organisation des hôpitaux. La première a été voulue par le gouvernement, l'élargissement de l'obligation de se soigner pour les malades qui ne peuvent y consentir librement. Ainsi, après au maximum 72 heures d'observation, un patient peut se voir prescrire soit une hospitalisation complète, soit un programme de soins qui réside dans une hospitalisation partielle, la nuit ou le jour, ou des soins à domicile, visite, médicaments. S'il ne suit pas ce programme, il risque le retour en hospitalisation complète. S'y est ajouté à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, l'obligation imposée par le Conseil constitutionnel d'instaurer à partir du 1er août une audience auprès d'un juge des libertés et de la détention qui contrôlera le bien fondé de l'internement. Une décision que personne ne réprouve, mais qui tourne au casse-tête. C'est une loi très compliquée à mettre en œuvre et l'échéance tombe alors que médecins, infirmiers, juges et greffiers sont en vacances, résume Joseph Allos, président de l'Association des établissements participant au service public en santé mentale, ADESM. Plusieurs possibilités sont offertes pour les audiences, au tribunal ou dans une salle spécialement aménagée à l'hôpital, ou bien encore par visioconférence. Chaque année, 60 000 audiences pourraient se tenir. Les hôpitaux préfèrent qu'elles aient lieu en leur sein pour éviter des transports de malades qui nécessitent au moins un chauffeur et un infirmier. Mais selon le syndicat des psychiatres d'exercice public, il semble qu'une bonne partie des tribunaux ait choisi de ne pas faire déplacer les juges et les greffiers, aussi par manque d'effectifs. Beaucoup reprochent au gouvernement d'avoir créé la panique en persistant à vouloir appliquer ces deux changements de concert. Dans les hôpitaux, à l'approche de la date butoir, les sorties d'hospitalisation ont été plus nombreuses et les entrées moins fréquentes pour limiter les cas à régler au départ et éviter impair et recours des patients. Le ministère de la Santé reconnaît que la situation risque d'être tendue dans les prochains jours, mais il estime que les hôpitaux parviendront vite à s'adapter. Les agences régionales de santé proposeront des réponses aux questions urgentes par le biais de spécialistes joignables à toute heure. Toutefois, à la veille du 1er août, les divers acteurs ne cherchaient pas seulement comment appliquer la loi, mais comment trouver des parades à des erreurs de procédure qui pourraient avoir un lourd impact sur des patients déjà fragiles. Alors oui, au sommaire de cette émission, donc, il est question de cette loi qui est entrée en vigueur le 1er août 2011. Et pour en parler, je ne suis pas seul. J'ai le plaisir d'avoir eu un entretien avec André Bitton du CRPA, le cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie ou en psychiatrie, qui a répondu à mes questions, enfin, qui commente cette mise en place de la loi. Aussi, je vous propose que nous l'écoutions tout de suite. Vous écoutez l'Entonnoir sur Radio Libertaire. Pour nous appeler, 01 43 71 89 40.
Cette loi a légalisé notamment l'intervention des équipes contraignant aux soins psychiatriques, contraignant aux médicaments, parce que c'est une loi sur la contrainte aux soins médicamenteux, essentiellement, y compris à domicile.
D'accord.
C'est-à-dire que des équipes des équipes psychiatriques pourront dévouler au domicile des gens, si les gens sont récalcitrants et refusent les traitements, et pourront imposer au domicile même des gens, le domicile devenant un lieu de contrainte, des médications sous contrainte, des médicaments psychiatriques, des médications psychiatriques sous contrainte. Alors, sous cet angle-là, évidemment, cette loi est très inquiétante. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu il y a eu des rebondissements dans l'établissement de cette loi depuis la fin de l'année 2010, des rebondissements venus de questions prioritaires de constitutionnalité qui ont amené le Conseil constitutionnel à statuer sur l'ancienne loi du 27 juin 90 au niveau de l'hospitalisation sans consentement et qui ont provoqué qu'en cours de route, le gouvernement et sa majorité ont dû réformer en cours de route leur proposition, leur projet de loi, et ont dû introduire une certaine dose de judiciarisation dans l'hospitalisation sans consentement, tout en maintenant des soins sans consentement hors les murs, indépendamment de l'hospitalisation à temps complet, de l'hospitalisation complète, tout en la maintenant sans contrôle judiciaire. D'accord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'intervention des procédures, des cas d'internement arbitraire, des cas d'internement abusif et des cas d'internement illégaux, déférés petit à petit à la censure du Conseil constitutionnel sur l'ancienne loi, entre novembre de 2010 et juin 2011, le Conseil constitutionnel a contraint, les magistrats du Conseil constitutionnel ont contraint le gouvernement et sa majorité à modifier son texte.
Alors, ce qu'il voulait au départ, le gouvernement, dans sa modification de loi, c'était tout le rôle, surtout au préfet et...
Absolument. Il y avait dans le projet de loi initial, le projet de réforme initial de mai 2010 du gouvernement, quant à cette loi qui vient d'être adoptée, il n'y avait mais en rien aucune judiciarisation de l'internement. L'internement était administratif, soit médico-administratif dans les mains du directeur de l'établissement, soit préfectoral dans les mains des préfets et des agences régionales de santé.
D'accord. Parce que,
les préfectures ont comme bras armé en fait les agences régionales de santé depuis la réforme des hôpitaux et des territoires de santé, HPST, hôpital, patient, santé, territoire, la loi Bachelot de 2009, réformée tout récemment. Et c'est en fait des procédures sur des cas d'internement abusif, des cas d'internement illégaux et abusifs, qui ont permis, par des saisines sur questions prioritaires de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, qui ont permis de faire avancer la contestation en la matière et de contraindre le gouvernement à adopter une certaine dose de judiciarisation dans sa réforme. Or, qui dit intervention d'un juge dans l'hospitalisation complète, dans l'internement psychiatrique, dit intrusion des droits à la défense, dit présence d'un avocat, dit présence du droit, et la vie psychiatrique française jusqu'à présent ignorait le droit, ignorait les droits des patients. Ce qui était prioritaire, c'était l'accès aux soins. Et depuis des générations, on entendait ce fameux refrain des équipes, des soignants, des psychiatres, de l'État, des gouvernements. Ce qui compte, la priorité, c'est que tel malade accède aux soins. Le restant, c'est parfaitement secondaire. Et ce sur quoi vous nous embêtez, à savoir des prétendus cas d'internement abusif, en réalité, ce sont des pures et simples violations de forme. C'est que la forme n'a pas été respectée. C'est que tel certificat a été mal libellé, tel arrêté a été mal libellé. Mais tout cela, ce sont des problèmes de forme. Ce qui compte, c'est l'accès aux soins, c'est que la personne accède urgemment aux soins et le reste n'a pas d'importance. Donc ce qui compte, c'est les traitements, les soins psychiatriques, les traitements, le droit, on s'assied dessus. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, des magistrats rentrent dans la danse. Maintenant, les avocats rentrent dans la danse également. Le droit à la défense et le droit des patients, les droits procéduraux des patients rentrent dans la danse. L'information aux patients sur leurs droits, sur leur situation et sur leur situation juridique et leur voie de recours a été densifiée, d'ailleurs, dans cette réforme, en parallèle de l'introduction de la saisine obligatoire du juge des libertés de la détention. Et donc, cette réforme, qui à la base était purement sécuritaire, a vu se développer un pôle qui contrarie l'aspect sécuritaire, à savoir le pôle juridique, le pôle procédural. Donc la donne n'est plus si simple, et a priori, si cette loi est effectivement une loi répressive et une loi sécuritaire, les possibilités de contestation juridique sont ouvertes, et l'avenir est donc ouvert.
Donc, alors, cette loi qui entre en application le 1er août, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, une mauvaise nouvelle pour l'élargissement de l'obligation de soins, et une bonne nouvelle pour l'audience auprès d'un juge des libertés et de la détention.
Alors, c'est pas si simple. En fait, on peut pas dire de façon aussi claire, nette et précise, sans nuance, c'est une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle.
D'accord.
Cette loi, elle est de toutes les façons négative. C'est une loi répressive. Mais ce sont les possibilités qu'on s'est vu ouvrir et qu'on s'est fait ouvrir au fur et à mesure du combat juridique dans cette affaire et du combat médiatique également, politique, sont les possibilités qui sont intéressantes et que on va chercher à exploiter dans les mois qui suivent, les possibilités procédurales, les possibilités juridiques. Alors, pour camper cette question de l'ouverture des possibilités juridiques, je dirais qu'on a obtenu une chose à l'issue de la deuxième lecture de ce projet de réforme devant le Sénat le 16 juin dernier, et à l'issue également de la troisième lecture à l'Assemblée nationale, le 22 juin, c'est que les parlementaires de l'opposition de gauche, des sénateurs et députés, socialistes, communistes, verts et apparentés, ne saisissent pas le Conseil constitutionnel en saisine parlementaire, mais qu'ils nous laissent la possibilité de contester article par article l'inconstitutionnalité de cette nouvelle loi par des questions prioritaires de constitutionnalité. Alors, les parlementaires de l'opposition ont décidé, par des décisions successives, dont on a été tenu au courant, en gros, les décisions ont été prises entre le 24 et le 27 juin 2011, de nous laisser opérer des questions prioritaires de constitutionnalité, sachant que la mobilisation juridique est relativement importante au niveau de cette loi, avec un certain nombre de cabinets d'avocats avec lesquels on travaille, et prioritairement le cabinet de Maître Raphaël Médier à Versailles, et que ce cabinet et quelques autres cabinets se tiennent à disposition pour déclencher des procédures sur la nouvelle loi, à dater du 1er août, à dater d'hier, et greffer sur ces procédures des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause l'inconstitutionnalité des nouvelles dispositions. Si bien qu'on a la page ouverte pour des actions juridiques qui peuvent remettre en cause cette réforme, puisqu'il faut bien voir que si le Conseil constitutionnel saisi par des questions prioritaires de constitutionnalité censure tout ou partie de cette nouvelle loi, il va fixer un nouveau délai au gouvernement pour qu'il légifère de nouveau devant le Parlement, et cette nouvelle loi sera en partie abrogée et réformée dans selon des modalités plus respectueuses du droit et des libertés fondamentales, des droits fondamentaux des gens, des interdits. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons de nos jours une possibilité de contestation juridique qui est très importante, qui est celle d'aller se plaindre de l'inconstitutionnalité des nouvelles dispositions de la loi du 5 juillet, parce que si le contrôle est devenu obligatoire devant le juge des libertés et de la détention pour le 15e jour au maintien de quinzaine, puis tous les 6 mois pour l'hospitalisation complète, faut voir que pour l'hospitalisation partielle et pour les soins contraints en ambulatoire, il n'y a aucun contrôle judiciaire de prévu, et donc les possibilités pour les gens, pour les contraints aux soins, pour les personnes contraintes psychiatriquement aux soins, les possibilités de se défendre judiciairement sont donc beaucoup, beaucoup moins importantes que si elles sont tenues internées à temps complet dans les murs. Et comme les psychiatres ont apparemment, les psychiatres en désaccord ou en accord avec cette loi, ainsi que les directions hospitalières, ont trouvé, semble-t-il, une parade de nos jours qui consiste à faire sortir prématurément les personnes tenues internées avant le délai de quinzaine pour qu'ils échappent à la lourdeur des procédures de contrôle devant le juge de la liberté de la détention devenue obligatoire dans l'hospitalisation à temps complet, donc ils font sortir prématurément des gens, ce qui libère des gens, mais on les place en même temps sous programme de soins, c'est-à-dire sous soins contraints en ambulatoire, ce qui réduit d'autant leur liberté. Alors certes, ils ne sont pas dans les murs, certes, ils ne sont pas enfermés, mais ils sont sous neuroleptiques contraints. Nous visons à obtenir par des questions prioritaires de constitutionnalité, que le Conseil constitutionnel tranche prochainement, dans les mois qui suivent, via des procédures incidentes, sur cette question, est-ce que oui ou non, au niveau du respect des libertés individuelles, du droit à la défense, du droit d'accès au juge, du droit au contrôle par un juge des violations des libertés fondamentales, on peut se permettre, est-il constitutionnel, que les soins contraints en ambulatoire soient sans contrôle judiciaire, qu'il n'y ait pas de contrôle obligatoire par un juge. Alors je vous dis, je ne vous cache pas que si jamais nous obtenons, ce qui n'est pas gagné d'avance, que le Conseil constitutionnel saisi sur QPC, sur question prioritaire de constitutionnalité, censure la constitutionnalité des programmes de soins contraints, des soins sous contrainte, sans contrôle judiciaire, et dit que pour que ces programmes de soins soient constitutionnels, il faut qu'ils soient contrôlés par un juge judiciaire, à ce moment-là, ce sera toute la contrainte psychiatrique qui sera judiciarisée. Alors, la porte est ouverte pour une contestation de ce genre. De même que la porte est ouverte sur une contestation d'un autre type qui est celle-ci. Si le gouvernement a prévu dans sa nouvelle loi et a fait adopter par le Parlement un contrôle par le juge de la liberté de la détention de l'internement à temps complet au 15e jour puis tous les 6 mois, nous estimons que ces deux intervalles, 15 jours au 15e jour puis tous les 6 mois, c'est beaucoup, beaucoup trop espacé et qu'en réalité les contrôles obligatoires par le juge doivent avoir lieu au 15e jour, au renouvellement mensuel, puis tous les mois, puis tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Enfin, avec les renouvellements obligatoires, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Bon. Et à ce moment-là, on va poser la question, on part d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Trouvez-vous normal qu'il n'y ait pas de contrôle judiciaire dans l'internement à temps complet, qu'il n'y ait aucun contrôle judiciaire entre le 15e jour et le 6e mois ? Alors que on peut très bien, les hôpitaux peuvent très bien placer sous programme de soins sous contrainte les gens dans l'intervalle et qu'ils ne voient plus jamais un juge et qu'ils restent des années et des années sous contrainte aux soins neuroleptiques et autres mesures de violation de leur domicile, de violation de leur vie privée, etc., etc. Donc les possibilités sont ouvertes. Donc en somme, on a, et c'est ce que caractérisait bien un article du Monde d'hier, du Monde d'aujourd'hui, publié dans la livraison du 1er août, on a une judiciarisation forcée qui permet de faire pénétrer le droit à l'hôpital, alors que le droit n'était pas présent dans les hôpitaux psychiatriques jusque-là, enfin du moins, sauf de façon très estompée. Et cette judiciarisation forcée et cet accroissement de la présence du droit dans l'hôpital psychiatrique, dans les soins psychiatriques, va faire, et fait d'ores et déjà, contrepoids à l'accroissement du sécuritaire dans le champ psychiatrique, et donc à l'accroissement de la répression psychiatrique. On a donc un schéma de pôle, et là je reviens à une analyse que j'avais faite le 28 juin dernier pour le compte du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, où je disais, cette analyse n'a pas été démentie depuis, que nous vivons actuellement, en fait, et une contre-réforme psychiatrique accentuant l'arsenal répressif psychiatrique, et de beaucoup, par la contrainte aux soins, et de beaucoup, et par le durcissement des conditions de sortie. Parce que la nouvelle loi durcit considérablement sur un certain nombre de points, sur la contrainte psychiatrique, sur l'internement psychiatrique, les sorties. Il y a un certain nombre de personnes, notamment les personnes tenues sous HO modernisé médico-légal ou avec antécédents médico-légaux, avec des antécédents non lieu judiciaire, qui n'obtiendront jamais leur sortie, tout simplement jamais leur sortie. Il va y avoir des perpétuités psychiatriques de fait. Alors d'un côté, vous avez une contre-réforme psychiatrique accentuant l'arsenal répressif psychiatrique, et de l'autre, une révolution psychiatrique à la française qui s'amorce, qui est une révolution psychiatrique juridique, qui judiciarise en partie ce champ, et qui, du fait du développement des dynamiques juridiques propres, du développement du droit et du développement d'une certaine dynamique juridique, c'est-à-dire que si on fait rentrer dans cette barque une trentaine d'avocats spécialisés, ce qui est le cas à l'heure actuelle en France, avec la propagation des jurisprudences et le fait que les avocats rentrent de plus en plus d'évidence dans ce champ, puisqu'il va y avoir des permanences juridiques d'un bout à l'autre de la France sur les personnes qui passent en contrôle obligatoire devant les JLD au 15e jour, et que donc ces permanences juridiques vont susciter des vocations. Et donc, d'ici 2 ans, on va se retrouver avec plusieurs centaines d'avocats spécialisés, et non plus quelques dizaines. Eh bien, dès ce moment-là, l'évolution même de la jurisprudence, l'évolution même du droit, va conduire petit à petit à une judiciarisation de la vie de la contrainte psychiatrique, du développement même de la contrainte psychiatrique.
De l'internement en général.
De l'internement psychiatrique en général, et des soins psychiatriques sous contrainte par ailleurs, puisque par propagation et par effet dynamique, les gens qui vont se trouver soustraits aux droits qu'on donne aux internés, par les programmes de soins neuroleptiques contraints, par les programmes de soins de traitement psychiatrique contraints, avec y compris les visites à domicile, le pointage obligatoire dans tel hôpital de jour, ou le pointage obligatoire dans des groupes d'entraide mutuelle. Les jeunes vont également servir, dans ce cadre-là, une certaine répression psychiatrique, ce qui est d'ailleurs tout à fait navrant, totalement navrant, mais c'est comme ça. Les gens vont se tourner évidemment à un moment donné par ras-le-bol, en ayant marre d'être abrutis sous traitement et contraints à des modalités qui ne leur font pas, vont chercher leur voie de recours. Et à un moment donné, ils vont voir qu'ils ont des facilités à recourir devant un juge des libertés de la détention, à s'adresser à un avocat. Ils ont des facilités qu'on n'avait pas jusque-là. Ils vont en avoir, ou du moins ils vont en avoir. Donc si vous voulez, par effet de dynamique, c'est l'ensemble de la contrainte psychiatrique qui progressivement va se trouver judiciarisé de fait, même si le législateur ne judiciarise pas de droit. Par ailleurs, il y a eu d'adopter, sur proposition du sénateur Jean-René Le Serre, UMP droite, qui est un sénateur répressif, mais très féru en droit, il y a eu d'adopter un article qui, à compter du 1er janvier 2013, unifie le contentieux de l'internement psychiatrique dans les mains du juge judiciaire. Or, cela simplifie de beaucoup l'abord judiciaire et l'abord procédural de cette affaire, parce que jusque-là, ce qui était rédhibitoire pour quantité d'avocats qui renonçaient à faire du contentieux en la matière, du contentieux de l'internement psychiatrique, du contentieux de la contrainte psychiatrique, il y avait éclatement des compétences judiciaires en matière de contentieux de l'internement psychiatrique entre deux ordres de juridiction. Oui. La juridiction administrative était compétente, les tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, conseil d'État, oui. La juridiction administrative était compétente pour connaître des inégalités de forme des décisions de contrainte psychiatrique, d'internement psychiatrique, tandis que la juridiction judiciaire civile était compétente à connaître des inégalités de fond. Donc du bien ou du mal fondé, et de l'indemnisation des décisions illégales. Si bien que cet éclatement des compétences qui était d'une complexité ahurissante, et donc avec une complexité qui s'était affinée, qui s'était densifiée au fur et à mesure des décennies et des années de contentieux, des pratiques du contentieux, voire le génie ancien à ce titre-là, voire les écritures de Philippe Bernardet à ce sujet, décédé en 2007, ce foisonnement et cette complexité procédurale avaient fini par être rédhibitoire au niveau du développement du contentieux lui-même, puisque des avocats se disant « Mais comment, mais des internés en psychiatrie, est-ce qu'ils ont de quoi me payer ?» J'ai affaire, ils constataient qu'ils avaient affaire à un contentieux éclaté entre un ordre de juridiction puis un autre ordre de juridiction, et qu'il fallait, pour une seule et même affaire, faire 3, 4 ou 5 écritures contentieuses différentes. Ben, ces avocats renonçaient en disant « C'est trop compliqué, les gens n'ont pas de quoi me payer, je renonce, c'est terminé. » Mais ce droit-là ne se développait pas. Mais avec cet amendement qui a été adopté via le sénateur Le Serre, droite, UMP, unifiant ce contentieux d'internement psychiatrique à dater du 1er janvier 2013, bien naturellement, et étant donné le fait que les magistrats rentrent dans la danse à titre obligatoire dans l'internement psychiatrique complet, bien naturellement, il va y avoir une explosion de ce contentieux, et donc ce contentieux va devenir un contentieux de masse, à tout le moins, si ce n'est pas dès 2012, ce sera dès 2013.
Il y a un peu un aveu aussi de l'administration dans le sens où c'est le juge des libertés et de la détention qui intervient sur l'internement, enfin sur l'hospitalisation sous contrainte. Ça montre aussi que c'était un régime déjà un peu carcéral. Une affaire de police.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout d'abord, soyons clairs, l'internement psychiatrique, sous le coup de la loi de 1838, qui a régné jusqu'en 1990, l'ancienne loi du 30 juin 1838, c'était une loi sur l'enfermement des aliénés. Donc, on disait les choses, à l'époque, on parlait d'enfermement des aliénés. Point. Avec la loi du 27 juin 1990, on est passé au droit et à la protection des personnes hospitalisées pour des troubles mentaux. Il n'en reste pas moins que la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950, qui a été adoptée donc dans les années immédiates après la Deuxième Guerre mondiale, et dont la France a ratifié les différents protocoles à partir de 1974, et ces protocoles sont entrés en vigueur dans les années 80, la Convention européenne des droits de l'homme réglemente pour l'Europe entière et pour tous les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'on peut déférer en contentieux individuel contre État à la Cour européenne des droits de l'homme, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme prévaut dans toute l'Europe, elle a une valeur prévalente, une valeur dominante. L'article 5.1e qui est l'article de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'internement psychiatrique, parle de la détention devant être régulière d'un aliéné. Oui. D'un aliéné, d'un vagabond, d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse, mais bien d'une détention devant être régulière, donc légale, d'une personne atteinte d'aliénation. Et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans un arrêt Winterwerp de 79, qui est un arrêt souche, dit que pour maintenir sous internement psychiatrique ou sous contrainte psychiatrique d'ailleurs une personne, donc un aliéné, donc une personne atteinte de troubles mentaux suffisamment conséquents, il faut que ces troubles mentaux soient suffisamment conséquents pour qu'on puisse parler d'aliénation, et qu'ils soient suffisamment constants pour qu'on puisse pérenniser des mesures de contrainte et qui plus est des mesures de contrainte fortes comme des mesures d'enfermement. Bien. Et par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne connaît pas la différence entre un internement dans les murs et un internement hors les murs et une contrainte aux soins. De toutes les façons, il s'agit d'une mesure de détention devant être régulière d'une personne aliénée. D'accord. Donc dès le départ, à partir du moment où on parle contrainte psychiatrique, on parle de détention, on parle de privation de liberté. Donc c'est quand même d'une sacrée hypocrisie que de venir dire « Oui, mais vous comprenez, vous et vos juges, vous carcéralisez la situation. » Elle ne l'était pas, la situation auparavant, elle l'était. Bien. Alors c'est indiquer la réalité du rapport de force psychiatrique que de confier la décision de la privation de liberté ou de son maintien, de la décision privative de liberté au plan psychiatrique, à un juge, qui plus est un juge de la liberté de la détention, qui d'ailleurs, en la matière, ne statue pas au pénal, mais statue au civil. Le juge de la liberté de la détention, en matière de contrôle des hospitalisations psychiatriques, est un juge civil. C'est un même juge qui statue d'ailleurs en la matière sur le contrôle de la régularité des décisions d'éloignement des étrangers sans titre, pour l'examen des décisions de placement en centre de rétention des migrants sans titre. Les juges des libertés de la détention statuent au cinquième jour, maintenant, depuis la réforme récente de la loi Besson sur les migrants, statuent donc au cinquième jour de façon civile, ils ne statuent pas au pénal. Alors certes, le juge des libertés de la détention statue également en matière pénale, en matière correctionnelle, sur les détentions provisoires, sur les est-ce que la personne doit être incarcérée avant son audience, ou peut-on la libérer et la laisser libre avant l'audience, ou bien également, bon, d'accord, mais ça c'est le volet pénal. Il ne reste pas moins que sur le volet du contrôle obligatoire de l'hospitalisation sans consentement, le juge des libertés de la détention statue en matière civile. D'ailleurs, l'article 32, 11, 12 et suivant de la nouvelle loi est formel, de même que l'ancien texte, l'article qui codifie l'action du juge de la liberté de la détention, son action est régie par le code de procédure civile. Par le code de procédure civile. Ce n'est donc pas une action pénale. Et donc, les personnes internées ne passent pas devant un juge répressif, mais passent devant un juge de contrôle civil, qui, au plan civil, appuyé sur des avis médicaux, et des avis médicaux qui le tiennent d'ailleurs, va décider de son maintien ou pas. Il n'y a donc pas là, à proprement parler, un œil pénalisant, mais au contraire, un œil extérieur, un œil qui est protecteur de la liberté individuelle et qui, en fait, correspond à une application à la française du principe anglo-saxon d'habeas corpus, c'est-à-dire la protection par l'autorité judiciaire de la liberté individuelle. On prive une personne de liberté, on en tient le corps, et bien on doit l'amener à un juge pour qu'il puisse faire valoir ses droits et se défendre dans sa liberté devant un juge. C'est l'application à la française d'un vieux, vieux principe d'habeas corpus qui avait été tenu de côté, ignoré en ce qui concerne la psychiatrie française. Pour revenir à la base de ta question, Denis, moi, il y a une chose que je dis, de toutes les façons, aux gens qui nous disent, vous, avec votre judiciarisation, vous voulez pénaliser les malades mentaux, parce que auparavant, les patients psychiatriques qu'on internait n'étaient pas pénalisés. Les conditions horribles et dérogatoires du droit commun de l'enfermement psychiatrique, on les connaît. Les conditions horribles et dérogatoires du droit commun de ces cohortes de gens tenus sous des neuroleptiques retards complètement abrutis, sans aucune possibilité de recours, sans aucune voix au chapitre, sauf la voix paternaliste de leurs soignants, on les connaît. Alors jusqu'à présent, les patients n'étaient pas pénalisés. Ah bien. Bon, alors si la judiciarisation des internements et l'introduction de droit à la défense, ça consiste à être clair avec des personnes psychiatrisées et qu'on leur dise vous avez droit à audience, vous avez droit à constitution d'une défense, vous avez accès à vos pièces, vous pouvez consulter vos dossiers, vous pouvez faire valoir vos droits, vous pouvez faire valoir ce que vous avez à dire, bah, ça vaut peut-être mieux.
Tout à fait. Et alors on parlait d'une sortie plus difficile et aussi une entrée plus facile.
Exactement. Alors exactement. Donc il faut bien voir que les nouvelles dispositions applicables dès hier, dès le 1er août, d'abord, on rentre dans la contrainte psychiatrique par ce que nous appelons dans le collectif « Mais c'est un homme », avec différentes organisations, des soignants issus du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, qui sont directement issus du syndicat de psychiatres USP, l'Union syndicale de la psychiatrie, les gens de la Ligue des droits de l'homme, les gens de Sud Santé Sociaux, du syndicat de la magistrature, différents partis politiques de l'opposition de gauche, parti de gauche, parti communiste français. Nous parlons d'une garde à vue psychiatrique. Il y a une période de 72 heures préalable à toute mesure de contrainte psychiatrique, qui est une période d'enfermement, qui est une période où on peut médiquer sous contrainte les gens, qui est une période sans d'admission informelle, on est admis sur un avis médical, sur un simple avis médical, ou bien sur si c'est une décision de contrainte sur décision du représentant de l'État, l'ancien HO. Maintenant, ça on change de titre, c'est les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. C'est donc SPDRE.
Mais c'est la même chose.
C'est la même chose. Oui, enfin, c'est la même chose. C'est la nouvelle mouture. C'est la nouvelle mouture.
D'accord.
Mais on parle bien de soins psychiatriques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller le plus rapidement possible vers des soins sous contrainte, puis d'arracher ou d'obtenir via la contrainte et la menace de la perpétuation de la contrainte le consentement des patients à leur traitement. Il s'agit de médicaments. En fait, il s'agit essentiellement de médicaments. C'est ça le drame, c'est ça le problème.
Mmh.
Donc, on rentre dans la contrainte par une période d'observation de 72 heures. Mmh. Et cette observation de 72 heures est en réalité une période de garde à vue sans aucun des droits des gardés à vue. Hein. Il n'y a pas de droit à l'avocat, etc. Alors, la jurisprudence en veut autrement. La jurisprudence, il se trouve, dit que dans les périodes de préalable, dans les périodes d'hospitalisation d'office provisoire, dans les anciennes mesures provisoires, l'accès à l'avocat est de droit. Un arrêt du Conseil d'État, un arrêt de principe du Conseil d'État du 20 octobre 2009, préfecture de police contre groupe information asile, où le GIA, le groupe information asile, à l'époque dirigé par moi, avait obtenu gain de cause sur la modification de la charte d'accueil de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où la préfecture de police de Paris avait dû inclure dans sa charte d'accueil, pour les personnes retenues à l'I3P, à l'IPP, en période d'achat provisoire, le droit d'accès à un avocat de son choix. Mmh. Donc si la jurisprudence le dit, les textes ne le disent pas. En réalité, la période d'observation de 72 heures est une trappe psychiatrique, une garde à vue psychiatrique, sans aucun des droits pour les gardés à vue. Et à partir de cette garde à vue psychiatrique de 72 heures, se décide sur le matraquage à fond des patients, tenus terrorisés, enfermés. Si vous n'acceptez pas les soins, on vous tient enfermé, ou bien vous sortez, mais sous programme de soins contraints. Quel est votre choix? Avez-vous le choix? Est-ce que votre choix est valide? Bon. Et donc, à l'issue de ces 72 heures, se décide la suite de la contrainte, ou de la prétendue absence de contrainte, ou de la libération pure et simple de la personne. Bon, donc l'entrée est facilitée, c'est vrai, l'entrée est facilitée, parce qu'auparavant l'entrée était quand même plus compliquée que cela. Par ailleurs, pour tout ensemble de cas de figure, la sortie est beaucoup plus compliquée. Ainsi, l'instauration d'un collège, cette nouvelle loi instaure pour tout ensemble de cas de figure, notamment les HO dites médico-légales, autrement dit les HO, les internements d'office modernisés, initiés sur la base d'un non-lieu judiciaire ou d'une décision d'irresponsabilité psychiatrique, ces non-lieux pénaux, soit pour des raisons correctionnelles, soit pour des raisons d'assises, ou également pour ceux qui ont eu des antécédents sans être pénaux, sans être irresponsables pénaux, des antécédents d'unité pour maladie difficile, selon un décret au Conseil d'État, un décret d'application du 18 juillet, ces antécédents doivent être d'une longueur d'un an. Si les personnes ont passé dans les 10 ans qui précèdent au moins un an en UMD, le collège qui prend la décision s'applique. Alors, et puis également pour les hospitalisations à la demande d'un tiers, nouvelle mode, péréliminant sans tiers, quand il n'y a pas de tiers qu'on puisse trouver. Également, ça c'est dans le cas des SDF qui ne délirent pas suffisamment pour qu'on les place en hospitalisation d'office nouvelle mode, mais sous une hospitalisation d'office, une hospitalisation à la demande d'un tiers, nouvelle mode, soins psychiatriques sur demande d'un tiers sans qu'il y ait de tiers. Parce que c'est une possibilité qui était foireuse d'ailleurs, qui a été légalisée là par cette nouvelle loi. Mmh. Et bien dans ce cas, la décision de sortie est assujettie à l'avis d'un collège. Et ce collège est un collège de trois soignants désignés par le directeur de l'établissement. Mmh. Premier soignant, le psychiatre traitant. Deuxième soignant, un autre psychiatre du même établissement qui ne prend pas en charge directement le patient. Mmh. Et troisième soignant, un cadre de santé désigné par le directeur, participant de l'équipe de soins ou participant lointainement de l'établissement. Et ce collège interne à l'hôpital doit prendre la décision collégiale de la sortie. Mais c'est une décision collégiale. Quant au cas des irresponsables pénaux, la préfecture, l'ARS, ou bien si le juge des libertés et de la détention est saisi, ne peuvent statuer sur la sortie que sur l'avis d'un collège d'experts, l'avis d'un collège de deux experts psychiatres inscrits sur la liste préfectorale, sur la liste du procureur de la République ou sur la liste de la cour d'appel, donc deux psychiatres experts, plus le collège soignant. Donc il faut cinq avis différents, plus l'avis préfectoral ou l'avis du juge de la liberté de la détention, mais en tout cas l'avis de cinq soignants, dont deux experts, pour obtenir une sortie. Mais qui va obtenir une sortie dans de pareilles conditions ? Est-ce que le principe de précaution va s'appliquer ? La couverture mutuelle et le parapluie systématique va s'appliquer ? Ah, mais mon collègue n'est pas d'accord. Ah, mais il y a une petite nuance, donc on sort le parapluie. Par précaution, on ne décide pas la sortie et on continue les mesures. Et quant aux cas de figure de gens qui peuvent être parfaitement inoffensifs, des SDF pour qui on n'a pas de parents qui acceptent de faire des tiers, d'être tiers demandeurs, et qu'on place dans cette espèce de les mesures de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans tiers, donc parce qu'on n'a pas trouvé de tiers compétents, parce que bon, maintenant les tiers doivent être compétents, ça doit être des gens qui connaissent préalablement les intéressés, les internés, les contraints aux soins, sans ça, ça n'est pas valide. Eh bien, ces pauvres gens qui sont quand même qui risquent d'être des innocents pénaux, je veux dire, des gens qui n'ont rien fait de mal, mais qui se trouvent là délirés, ne pourront obtenir leur sortie que sur l'avis concordant d'un collège de trois soignants. Mais qui va donner un accord dans de pareilles conditions ? Il va y avoir des perpétuités psychiatriques. Il va y avoir des perpétuités psychiatriques. Donc, encore heureux qu'on a pu obtenir, par des procédures sur questions prioritaires de constitutionnalité, sur des cas d'internement illégaux et arbitraires, qu'il y ait une intervention renforcée des juges dans cette affaire. Et qu'en plus, à tout moment, évidemment, mais ça c'est une disposition pérenne, la loi ancienne le prévoyait également, qu'à tout moment, les internés et les contraints en soins peuvent demander leur main levée au juge des libertés de la détention. Mais maintenant, c'est facilité.
Oui, parce qu'auparavant, une personne justement fière de la personne hospitalisée pouvait saisir le TGI pour
l'intéressé lui-même pouvait, c'est une vieille disposition, c'était en place dès la loi de 1838, c'était l'ancien article L351 du code de la santé publique, l'actuel 3211-12 modernisé, qui disait que l'interné lui-même, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, ou toute personne par signalement, par simple signalement, pouvait saisir anciennement le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir sa main levée ou la main levée de la personne concernée. L'interné pouvait toujours, mais pour se faire entendre dans pareilles conditions et vu la dualité de compétences, c'est extraordinairement compliqué. Et d'une part, et d'autre part, dans l'indication des voies de recours depuis 15 ans, les hôpitaux, dans leurs livrets d'accueil et autres, oubliaient systématiquement de mettre en tête que le bon juge pour ce pouvoir était le juge de la liberté de la détention. On voyait dans les notifications, on voyait jusque-là, dans les notifications des voies de recours faites aux internés, et dans les livrets d'accueil remis par les hôpitaux aux internés, envoyer des trucs abracadabrants et ahurissants, de type vous pouvez vous pourvoir devant le directeur de l'établissement, devant le préfet, devant la CDHP, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui n'ont jamais fait, les CDHP n'ont jamais fait sortir personne, sauf des cas d'espèce, avec, dans un cas extraordinaire qui a été à un moment donné la CDHP du Val-de-Marne, parce qu'elle était présidée par quelqu'un qui était décidé à bouger dans le sens des droits des internés, et qui a fait sortir à trois reprises des personnes, sans ça, aucune CDHP de France et de Navarre n'a jamais fait sortir qui que ce soit, ça n'a jamais été une voie de recours. Il a toujours été indiqué d'ailleurs, qu'on pouvait saisir le procureur de la République, mais le procureur de la République n'est pas un juge indépendant. C'est un juge du parquet, c'est pas un juge du siège. Mmh. C'est un juge garant de l'ordre public, c'est pas un juge garant des libertés. Et le procureur de la République a un pouvoir souverain de classement des demandes qui lui parviennent. Le procureur de la République n'a jamais été une voie de recours. On trouvait également, vous pouvez saisir la commission des relations avec les usagers et sur la qualité de la prise en charge, etc., etc. On trouvait une succession de voies de recours sans aucune hiérarchie dans lesquelles, on trouvait également, la personne pouvait se pourvoir devant le tribunal administratif, mais sans qu'on lui indique sur quelle raison et sur quelle spécialité. Si bien que les personnes envoyaient du courrier à toute bersingue et que personne n'était compétent, et que quand par hasard les personnes avaient saisi une juridiction qui était compétente, et bien comme elle avait été saisie de travers, le recours était rejeté. Puisque selon l'ancienne dualité de compétences qui va prévaloir jusqu'au 1er janvier 2013, le tribunal administratif n'est compétent que sur la légalité formelle. On a vu des gens sur des arrêtés d'achat qui leur étaient notifiés, avec comme voie de recours pour saisir dans les 2 mois le tribunal administratif, saisir le tribunal administratif de leur ressort en disant « je suis interné abusivement, veuillez me libérer ». Le tribunal administratif n'est pas compétent, il émettait une ordonnance d'irrecevabilité et les voies de recours de la personne étaient pliées. Ou d'autres disant « je saisis le procureur de la République, le procureur de la République ne transmettant jamais la requête au juge de liberté de la détention. » Ou d'autres disant « je saisis le juge de la liberté de la détention dans des termes très vagues sur un morceau de papier, etc., sans aucun argument de droit, sans aucun été, sans aucun soutien. » Et le juge des libertés de la détention disant « moi, je suis quand même mon expert. » Le psychiatre expert commis avalisant complètement le dit de ses collègues, recopiant le certificat médical, le dernier certificat médical de situation, la personne voyait sa demande rejetée. Donc, les hôpitaux jusqu'à présent s'y connaissaient très bien pour noyer le poisson et faire que les voies de recours ne soient en rien indiquées de façon congrue et pertinente. Donc, ce côté-là, c'était réglé. Alors, depuis, ça toujours est-il que depuis la loi de 1838, les gens pouvaient recourir. Voilà. Mais était-ce efficace ?
Et aujourd'hui, quelles sont les conditions, quelles seront désormais les conditions de visite des patients en hôpitaux psychiatriques ?
Les visites, c'est pas exactement. Les visites restent sous, pour les personnes internées, restent sous l'entière discrétion des équipes. C'est sous l'entière discrétion. C'est pas ça, c'est ce qui est resté de la loi de 90, c'est le droit d'émettre ou de recevoir des courriers.
Oui.
Voilà, ça c'est resté. Et ça, il faut savoir, c'est à savoir, à Radio Libertaire, on connaît pas mal de cas d'internement, à partir de vos auditeurs et de vos auditrices, que les gens qui sont internés peuvent librement, juridiquement, dans les faits, après, est-ce que c'est respecté, c'est une autre paire de manches, mais peuvent librement émettre et recevoir du courrier. Bien. Que ces mêmes personnes peuvent saisir en toute liberté les autorités de tutelle des établissements psychiatriques, dont les autorités judiciaires. Et que surtout, ce qui est en tout état de cause, c'est un droit établi en tout état de cause, les personnes internées peuvent prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de leur choix. Donc à tout moment, à partir du moment où une personne est internée, elle peut demander, et de nos jours c'est facilité, et sur certains barreaux de nos jours et depuis hier, il y a des permanences d'avocats, et des facilités pour la commission d'office et la désignation à l'aide juridictionnelle d'avocats qui sont portés volontaires, en tout cas sur Paris et Versailles, c'est le cas. De nos jours, une personne qui est internée peut demander à être assistée d'un avocat le plus tôt possible. Et comme au fur et à mesure de l'année qui va s'écouler d'ici un an et des 2 années qui vont s'écouler, il va y avoir un peu partout en France des permanences d'avocats qui vont se mettre sur pied sur l'hospitalisation sans consentement, donc ça va être de plus en plus simple.
Radio Libertaire 89.4, émission L'Entonnoir. Alors, invité d'aujourd'hui, André Bitton, pour parler de cette loi sur l'internement sous contrainte, cette loi du 5 juillet 2011, entrée en application le 1er août de cette année. Et donc, il est question de, dans cette loi, outre l'aspect sécuritaire, qui est l'élargissement de l'obligation de se soigner pour les malades qui ne peuvent y consentir librement. Donc après un maximum, au maximum 72 heures d'observation, un patient peut se voir prescrire soit une hospitalisation complète, soit un programme de soins qui réside dans une hospitalisation partielle ou des soins à domicile. Et s'il ne suit pas ce programme, il risque le retour en hospitalisation complète avec des difficultés de sortie. Donc et d'autre part. L'obligation d'instaurer à partir de ce 1er août donc une audience auprès d'un juge des libertés et de la détention qui contrôlera le bien fondé de l'internement. Alors voilà, ça c'est annoncé dans Le Monde daté du 2 août 2011. Eh bien, il y a encore quelque chose à ajouter. Nous écoutons la fin de cette interview.
Alors, cela étant, si je peux me permettre, suite à une déclaration que nous avons co-signée du collectif « Mais c'est un homme » du 1er août, cette loi n'en reste pas moins être une loi répressive qui met en péril les libertés et par rapport auxquelles les protagonistes... Les patients doivent se défendre, leurs droits autant que faire se peut, autant qu'ils en ont la force d'ailleurs, mais les soignants également. Les soignants ont lancé, et à travers cet appel notamment, un appel à résistance. Ah bah, de toute façon, de ce côté-là, nous nous suivons, hein, en ce qui me concerne, pour le compte du CRPA, du Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, qui est issu du GIA, du groupe Information Asile, dont nous sommes une scission, nous suivons tout à fait cet appel à résistance. Qu'il soit clair que une loi pareille, qui est quand même extrêmement répressive, du côté des soignants et de soignants qui veulent exercer leur fonction avec humanisme, c'est sûr qu'une loi pareille, c'est pas tolérable. Et que les appels à résistance divers qui ont été lancés, là par le collectif « Mais c'est un homme », également par le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, nous suivons tout à fait cet appel à résistance.
Voilà, nous remercions donc André Bitton pour l'entretien qu'il nous a accordé au sujet de cette loi. Un commentaire d'un copain au téléphone. Oui, le juge de la détention des libertés de la détention est bien souvent plus juge de la détention que juge des libertés, et avec des chiffres de l'ordre de 90% 10%, quoi. Donc là aussi, hein, c'est tout ça, c'est pas gagné encore, hein. Voilà. Alors, dernière information avant de nous quitter et de nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Je rappelle d'abord que André Bitton est créateur et directeur, on peut dire, du CRPA, Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. Et là, pour finir, je vous fais une annonce. Il y a une rencontre les 9, 10 et 11 septembre 2011 en Ariège, au Mas d'Asile, 09 290. Une rencontre intitulée « Résister à la psychiatrie ». Alors, avec des projections, des discussions, des concerts, des expositions. Loin d'être un programme définitif, c'est une invitation. Vous pouvez contacter le collectif qui organise cette rencontre sur l'adresse résister à la psy, en un seul mot, résister à la psy, et sans accent, @laposte.net pour toute proposition de discussion, projection, concert ou spectacle qui pourrait s'inclure dans cet événement. Voilà. Et donc le texte qui annonce cette rencontre au Mas d'Asile les 9, 10 et 11 septembre est le suivant. Aujourd'hui, la seule critique admise et relayée de la psychiatrie est produite par les membres de l'institution. Il faut être expert, psychiatre, médecin, infirmier ou chercheur, bref, il faut être un rouage pour avoir le droit de mettre sa petite réserve éthique sur la machine psychiatrique telle qu'elle fonctionne. Pendant que d'aucuns s'agitent à dénoncer la dérive sécuritaire, comme pour nous faire croire que jusqu'ici tout allait pour le mieux, la parole nous est confisquée une fois de plus, mais sans surprise. Nous, psychiatrisés, ex-psychiatrisés ou actuels psychiatrisés ou encore potentiels psychiatrisés, organisons un week-end de rencontres, discussions, réflexions pour penser une résistance à la psychiatrie et au monde qui va avec. Nous avons imaginé plusieurs thèmes généraux. En envisageant la psychiatrie comme un objet politique, nous aimerions nous pencher sur les spécificités de cette institution, ses particularités par rapport à l'institution médicale, ses similitudes avec l'institution carcérale. Penser la médicalisation croissante du monde afin de comprendre comment la psychiatrie diffuse et organise normes, interdits, autocensure en chacun de nous, de manière de plus en plus efficace et ainsi participe fortement à la structuration de la société. Nous voudrions aussi revenir sur l'histoire de la psychiatrie française pour mieux comprendre ce qu'elle est aujourd'hui et en parallèle sur la lutte passée et constater l'absence d'héritage des combats menés pour tenter d'imaginer les luttes à venir. Bien entendu, il nous importe aussi de travailler la question de l'entraide, des bricolages à notre mesure, de comment cheminer avec des psychiatrisés ou des personnes qui refusent de l'être. Il est prévu d'organiser sur ces sujets des ateliers de discussion en petits groupes. Ce week-end n'est pas le lieu d'expression de parole en uniforme, ni un stage de formation, mais un moment de réflexion et de création collectif. Et comme disait Samuel Beckett, vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Ainsi se termine l'émission L'Entonnoir. À la semaine prochaine.